et bienvenue sur le podcast Le Petit Chef Philosophe. Aujourd'hui, nous poursuivons notre recherche pour vivre notre vie et notre management avec courage et justice. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, vous partez peut-être au boulot, vous faites la cuisine, vous êtes en train de lire ou vous cherchez tout simplement à vous endormir, mais dans tous les cas, accrochez-vous car cette aventure va vous happer du début à la fin. Et bien évidemment, c'est une histoire vraie, comme toujours sur ce podcast. Nous allons parler des frères McDonald et de leurs valeurs nobles et bienveillantes. Oui, j'ai associé McDo à noble et bienveillant. Parlons de ces frères oubliés de l'histoire du géant du fast-food, aujourd'hui mondialement connu. Notre histoire commence avec celle d'un loser. Oui, un business loser. Un commercial pas très brillant qui a la cinquantaine et vend en porte-à-porte des articles que les restaurateurs ne s'arrachent pas vraiment. Non, Ray Kroc, que nous appellerons par son nom de famille qui lui va si bien, Kroc, fait beaucoup de kilomètres pour vendre peu de choses. Mais un jour, il est surpris par une commande. Une grosse commande. Trop grosse commande à son goût. Cette commande est passée directement depuis la Californie, par les frères McDonald. Ni une ni deux, Kroc décide de se rendre sur place malgré les kilomètres qui les séparent. C'est louche une telle commande. Qu'est-ce qui se passe en Californie ?
McDonald, bonjour.
Bonjour monsieur, pourrais-je parler au propriétaire ?
Lequel ?
Comment ça, lequel ?
Vic ou Mac ?
C'est lui qui est disponible.
Je sais pas. Vic, j'écoute.
Bonjour Vic, ici Ray Kroc du service commercial de Prince Castle. C'est à propos d'une commande que vous auriez passée chez vous pour des mixeurs.
Vous pouvez livrer quand ?
Justement, Dick, c'est pour ça que je vous téléphone. Il doit y avoir un petit malentendu
sur la commande. Dans le freezer, tout en haut, à gauche. Excusez-moi.
Oh, pas de problème. Ma secrétaire a cru que vous vouliez en commander 6.
Oui, en fait, je pense qu'il y a eu une erreur.
C'est bien ce que je me disais. Je vois mal, Marie-Vine, fabriquer 30 000 chèques à la fois.
On va en prendre 8.
Kroc décide donc de faire ses nombreux kilomètres. Et Kroc rencontre Richard et Maurice McDonald, deux frères qui ont révolutionné le fast-food. Ils se sont aperçus que 80% de leurs bénéfices étaient dus aux hamburgers. Vous connaissez la règle des 80-20 ? 80% du chiffre d'affaires est généré principalement par 20% des produits. En management, cette règle s'articule autour de 80% de notre temps et monopolisée par 20% de vos collaborateurs. La fameuse phrase « Ah, toujours les mêmes. Je sais que vous avez déjà des visages en tête qui viennent, sur des individus qui aspirent tout votre temps, qu'ils soient clients, collaborateurs ou autres. Alors, reprenons vite notre histoire pour vous faire penser à autre chose. Kroc rencontre donc les frères McDonald, qui lui expliquent, après moult rencontres et insistances de Kroc, leurs principes, leur système révolutionnaire. Ne faire que des burgers ? Et les faire de la manière la plus optimisée possible. Ils révolutionnent ainsi deux choses. La première, se spécialiser dans les burgers. Et la seconde, optimiser les déplacements en cuisine. Et la seconde ne tient que si la première tient. S'ils multiplient leur offre de burgers, ça ne tient plus. Avec un tel succès, les frères McDonald ont déjà franchisé et ouvert d'autres restaurants sur le même principe. Et les responsables de ces restaurants ont joué le jeu. Enfin, au début du moins. Les franchisés finissaient cependant par proposer des hot dogs, des brochettes et j'en passe. Impossible de tenir le système magique des McDonald's dans ces conditions. Ils ont fait couler tous les restaurants par manque de discipline. Une valeur chère à Maurice et Richard McDonald.
Qu'est-ce que vous faites ? Si on attend de se reposer, on attend de nettoyer. Allez ! Bien droite, la coque. 200 degrés, c'est ça ?
Oui, monsieur.
Impec, bon travail. Et là, il n'y a qu'un cornichon. Deux cornichons,
oui,
Martin. Deux cornichons, Non, pas comme ça, tenez, regardez. On les retourne comme ça, on les retourne et on appuie dessus. Celui-ci est trop saignant. Vous avez compris ?
Une valeur qu'ils n'arrivaient malheureusement pas à transmettre à leurs franchisés. Ils ont donc oublié leur conquête du monde. Ce qu'ils veulent désormais, c'est avoir une vie paisible et améliorer sans cesse leur seul et unique hamburger et leur cheeseburger. Un seul restaurant, le leur. Nous sommes très loin du McDonald's d'aujourd'hui, pas vrai ? Croc est un businessman raté, mais il sent là l'occasion de faire beaucoup d'argent. Doué en persuasion, il persuade les frères McDonald de redonner une chance à la franchise. Si ça marche ici, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ailleurs. Avec leur accord, il part alors sur l'autre façade maritime du pays américain, là où sa femme l'attend, et commence à implanter un McDo. Il l'appellera d'ailleurs plus tard le McDonald's numéro 1.
Il est gonflé ce gars-là. Quoi ? Tu sais comment il nomme son enseigne à des Plaines ? Le McDonald's numéro 1.
Quoi ? Et nous on est quoi alors ?
Voyez le fair play du type. Le loup est entré dans la bergerie. Et le loup est très loin de ses associés. Il gagne en popularité locale. Il se démène, on peut lui reconnaître ça, pour trouver de bons responsables de sites qui respecteront scrupuleusement les valeurs de l'entreprise, à savoir la discipline dans la fabrication, dans les menus et dans l'hygiène. Il trouve les terrains, il contacte les architectes, construit les restaurants, met à sa tête des gens brillants qui ont raté leur vie et les persuade qu'ils lui doivent le succès de leur restaurant avec pour seule dette maintenir une discipline de fer. Croc est fort sur ce coup-là. Il réussit comme il n'a jamais réussi. Il a senti que c'était l'affaire de sa vie. Mais Croc, en dépit des apparences, ne gagne pas beaucoup d'argent, tout comme Richard et Maurice. Son contrat est formel. Il ne touche tous les trois qu'une mince partie des recettes, le reste étant réinvesti dans l'entreprise pour se multiplier. Le premier conflit finit par éclater. Croc voit grand. Il veut aller vite. Il veut aller loin et il veut y aller en jet privé et voiture de luxe.
Bonjour Ray, je veux renégocier.
Renégocier quoi ?
Mon contrat merdique. 1,4, ça couvre même pas mes frais mensuels, a fortiori les frais d'exploitation.
Ray, ce sont les termes.
C'est pas suffisant.
C'est presque trois fois plus que nous.
Ah, d'accord, autrement dit, vous voulez plus d'argent ?
Nous ne sommes pas des gens cupides.
La cupidité n'a rien à voir avec ça. Si j'avais plus d'argent, je pourrais développer l'activité deux fois plus vite.
Le rythme actuel de croissance ne convient pas.
Moi, j'ai rien. Pas d'emplacement en Pennsylvanie ? Rien à New York ?
Ça viendra.
Rien au Texas ?
Ça viendra bien un jour.
Vous savez, j'en ai marre de me battre comme un chien pour vous deux.
Et vous faites un boulot formidable.
Alors je peux pas me contenter d'être juste à flot ?
Je mérite mieux que ça.
Je sais pas quoi dire.
Bah, dites que vous renégociez.
Je peux pas.
Vous voulez pas ?
Augmentez votre part. Vis-à-vis des autres franchisés,
ça serait injuste. Et les autres franchisés
se portent très bien. C'est moi qui bois la tasse.
Vous avez lu, approuvé et signé tous les termes du contrat. Tous. Personne ne vous a forcé la main.
4%.
Non.
Alors 3,5.
Ray.
Quoi ?
Non.
Bon Dieu, merde !
C'est un emmerdeur de première, oui. Il est un peu siphonné, c'est vrai.
Mais c'est pas pour autant qu'il nous fera du tort.
Quand est-ce que tu vas arrêter, Mac ?
Arrêter quoi ?
De croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a un loup dans la bergerie, on lui a ouvert la porte.
Croc est populaire et attire les prédateurs en quête de succès. Très vite, il est conseillé par un agent immobilier qui lui conseille de fonder sa propre société, d'acheter les terrains et de les louer aux frères McDonald. C'est la fin de Richard et Maurice. Croc a saisi la seule faille de leur contrat et il va faire beaucoup d'argent. Pire que ça, son loyer ne dépend plus du succès des restaurants. Une fois qu'un restaurant est dessus, c'est jackpot et aucun des deux frères n'aura l'audace de le détruire. Croc devient riche et populaire. Quand les frères McDonald s'aperçoivent de la supercherie, il est trop tard. 7 ans après leur rencontre de 1954, Croc a tellement d'argent qu'il leur fait une offre de rachat. Il les tient. Il détient tout leur patrimoine immobilier. Ils peuvent tout perdre. Alors, il conclut un accord en 1961. Ils perçoivent un peu d'argent, pas loin de 3 millions, de quoi reconstruire un autre restaurant, car leur rêve c'est ça, diriger un fast-food, vivre de ce qu'ils ont inventé, créé, du système en cuisine à l'arche dorée visible de partout. Seulement, il y a un hic. En vendant leur invention, ils ont vendu leur nom, McDonald's. Croc leur a volé leur business, mais aussi leur identité. Il ne leur reste qu'un petit restaurant qu'ils ont appelé le M. Mais c'est encore trop pour Ray Croc. Croc finit par installer un McDonald's dans la ville où les frères se sont installés. Business is business. Il finit par définitivement enterrer leur histoire aux yeux du grand public. Heureusement, elle est parvenue jusqu'à nous. Et en 1984, soit 20 ans après la signature du contrat, Ed Runcie, président de McDo aux États-Unis, sert le 50 milliardième hamburger à Richard McDonald dans une grande cérémonie pour enterrer la hache de guerre. Concrètement, les frères McDonald appartenaient à un capitalisme durable, c'est-à-dire qu'ils souhaitaient s'étendre par la seule force de leur invention et de leur travail, en proposant les meilleurs hamburgers possibles à leurs clients, dans le respect de l'hygiène, de l'environnement et du goût. Un exemple sur les milkshakes. Ils étaient faits maison, par exemple, et ça consommait beaucoup d'argent pour les maintenir au frais et les conserver. Alors Croc a instauré la poudre, de la poudre en sachet. Et paf, ça fait des milkshakes quand on verse un peu d'eau. Pas besoin de frigo, les coûts sont réduits. Bingo. Typiquement, ce n'était pas la ligne de conduite que souhaitaient proposer les frères McDonald. Alors, est-ce que finalement le pouvoir et l'argent l'ont emporté sur les valeurs? Il semblerait que oui. Et pourtant, non. Pas du tout.
Alors, je sais ce que vous vous dites. C'est quoi le secret d'un vendeur de 52 ans sur le retour, représentant en machine un milkshake qui fait du fast-food un empire avec 1600 restaurants dans 50 États et 5 pays étrangers, avec un revenu annuel qui avoisine la modique somme de 700 millions de dollars. Ça tient en un mot. Persévérance.
Si cette histoire vous a passionné, vous pouvez retrouver le film dédié qui se nomme « Le Fondateur », d'où sont extraits les extraits que vous pouvez entendre. Sinon, vous pouvez partager cet épisode à un ami ou un collègue féru de philosophie. Car il s'agit bien de détailler maintenant quelles leçons les frères McDonald ont à nous enseigner. Et elles sautent aux yeux. Ils ne se sont jamais, jamais, jamais laissés corrompre par leurs ambitions et leur argent. Certes, ils ont conclu un pacte avec le diable en donnant sa chance à Ray Kroc, qui leur promettait un succès sur tout le continent américain. Ils se sont laissés tenter par soif d'aventure, mais ils ont tellement scellé leur contrat qu'il a fallu que Kroc s'en écarte habilement et en cachette grâce à des conseils d'experts que Richard et Maurice ne pouvaient imaginer. Ce que nous enseignent les frères McDonald, c'est qu'il ne tient qu'à nous de mener une vie de courage, de valeur et d'honneur. Il ne s'agit pas de vouloir changer le monde, il s'agit de rester soi-même intègre, en accord avec soi-même. Rappelez-vous de l'épisode précédent sur Confucius. Il a tenu jusqu'au bout, durant toute sa vie, pour ne jamais trahir ses valeurs. Les frères McDonald sont eux aussi un exemple de courage. Ils n'ont pas succombé à leurs désirs les plus profonds de gloire et d'ambition. Ils ont même pardonné en dévorant le 50e milliardième hamburger de McDonald's. Mais alors, pourquoi tout leur a échappé? Qu'est-ce qui a foiré? Eh bien, je vais vous le dire.
Trois nouvelles franchises en un mois.
C'est formidable. Quoi?
Je sais pas.
Quoi, vas-y.
Avec tout ce qu'on a traversé, tu crois pas que tout ça va un peu trop vite? Avec ces franchises à tire-larigot, comment il va pouvoir maintenir la qualité?
Le management à distance n'était pas vraiment fait pour les frères McDonald. Ils n'ont pas su transmettre à leurs franchisés les valeurs qui étaient les leurs. McDonald serait tout autre aujourd'hui. Ils détenaient le système et la stratégie qui a fait son succès. Ils avaient tout dans les mains pour réussir. Alors, que pouvons-nous faire pour transmettre nos valeurs à nos équipes ou à nos clients? Eh bien, il s'agit tout d'abord de ne pas décider des valeurs de l'entreprise en comité de direction. S'il faut tout un comité de direction et des semaines de débats pour trouver les valeurs de l'entreprise, c'est qu'elles ne doivent pas être très présentes au quotidien. Oubliez donc la grande échelle et le papier, la transmission des valeurs passe par le réel, le concret, l'échange, la relation humaine et ne peut s'affranchir de l'exemple, bien sûr. Pour être inspirant, il faut souvent commencer par être exemplaire. Ce qui fonctionne très bien, c'est de ne choisir que deux valeurs et de les avoir constamment en tête, de profiter de chaque occasion, de chaque dérapage pour rappeler le contrat moral autour de ces deux valeurs. Mais il est possible d'aller encore plus loin que ça, l'entretien professionnel. Inscrire des valeurs dans un entretien professionnel, ça c'est de l'engagement. Et l'engagement, on le sait quand on est manager, est la première chose à obtenir dans une conduite à tenir. Pérenniser bienveillance et rigueur au sein du service, c'est l'objectif et les valeurs que j'ai choisies. À vous de transmettre ce qui vous semble judicieux. Il s'agit alors de persuader le collaborateur à s'engager concrètement sur une action de bienveillance ou de valeur 1, et une action de rigueur ou valeur 2 que vous aurez choisi. Par exemple, veillez à ce que les véhicules de l'entreprise restent propres, surtout s'ils sont mutualisés et servent à plusieurs personnes, dans un souci de bienveillance envers le prochain utilisateur du véhicule. C'est un exemple. Pour la rigueur, par exemple, être équitable dans la distribution des activités agréables et plutôt désagréables, pour que chacun y passe un temps égal et ne pas favoriser certains au détriment d'autres. Et à vous de l'inscrire sur l'entretien professionnel, à côté des autres objectifs plus régaliens et familiers. Vous ferez ainsi entrer les valeurs dans votre management à chaque occasion, en rappelant l'engagement moral qui a été pris. Il faut pour ça être assez présent, proche de ses équipes, ou du moins si vous êtes manager de manager, comme c'est mon cas, proche de ceux-ci pour qu'ils diffusent à leur tour vos valeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous teaser le prochain épisode, un petit rappel concernant le partage de ce podcast. Il ne tient qu'à vous de faire en sorte que la philosophie trouve sa place dans notre management en diffusant ce podcast sur les réseaux de votre choix. Il y aura toujours une histoire, une aventure d'un personnage célèbre qui fera plaisir à l'une de vos connaissances. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise tous les 5 épisodes. Mais la semaine prochaine, il s'agit du numéro 4 et nous détaillerons la vie d'un nazi qui, après-guerre, a ouvert de nombreuses écoles de management et a formé des milliers de managers. Peut-être que vous et moi utilisons d'ailleurs encore des méthodes de management nazi. Si c'est le cas, ça ne fait pas de mal de le savoir. On verra ça la semaine prochaine. Merci à tous et à bientôt !